Vous écoutez RTL. Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, François Fillon, député Les Républicains de Paris, ancien Premier ministre. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Bienvenue à tous dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Et bonjour François Fillon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Ancien Premier ministre, député Les Républicains de Paris. On va évoquer évidemment votre croisade contre l'entrée dans la Constitution de la déchéance. Est-ce que l'arrestation vendredi soir d'Abdeslam, qui est français, change en quoi que ce soit votre point de vue, votre conviction sur le dossier? Pour relancer l'économie, vous prenez des réformes radicales. Est-ce que les manifestations contre la loi anti-travail ne vous donne pas tort? On reviendra sur l'accord entre Européens et Turcs sur les réfugiés, c'est un dossier évidemment important. Et puis, vous êtes candidat à la primaire Les Républicains, la primaire de la droite et du centre, peut-être, on ne sait pas encore, vous nous direz d'ailleurs ce qu'il en sera. Encore un sondage assez cruel pour vous, François Fillon, ce matin, puisque vous êtes quatrième, selon Odoxa pour Le Parisien, derrière un Bruno Le Maire qui semble prendre de la distance. Qu'est-ce qui ne marche pas? Une heure pour comprendre, pour convaincre avec vous et avec Alexis Brazet, directeur des rédactions du Figaro.
Bonjour.
Et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI, et Benoît Galeret, qui nous rejoindra tout à l'heure. Benoît, vous relevez toutes les réactions et vous nous apportez vos questions bonus à François Fillon tout à l'heure.
C'est cela. Je surveille les réseaux sociaux pour vous. Envoyez-nous vos questions, vos remarques avec le hashtag Le Grand Jury, tout attaché. Et puis je viendrai vous les lire tout à l'heure en fin d'émission.
À tout à l'heure. Hashtag Le Grand Jury. François Fillon, l'arrestation d'Abdeslam vendredi soir, c'est une grande victoire sur le terrorisme.
C'est une bonne nouvelle qu'un criminel ait été arrêté, qu'il puisse être jugé, qu'on puisse à travers son interrogatoire en savoir un peu plus sur l'organisation de ses réseaux. Maintenant, il ne faut pas non plus exagérer les choses, c'est juste un pion parmi d'innombrables pions dans une guerre mondiale. Et en faire une immense victoire contre le terrorisme, c'est d'une certaine façon nier la gravité de la situation
qui est en face de nous. Qui en fait une grande victoire ?
Écoutez, on organise un conseil de défense.
Vous trouvez que c'est un peu beaucoup ?
Voilà. Je pense que ces criminels, ils doivent être traités avec beaucoup de fermeté et un peu de mépris aussi, au fond. C'est dans l'objectif de l'État islamique. Il faut lire les documents des stratèges de l'État islamique. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils ne veulent pas installer, en tout cas à moyen terme, le califat sur l'Europe. Ils n'ont pas autant d'illusions. Ce qu'ils veulent faire, c'est nous faire peur, nous terroriser pour qu'on arrête de soutenir les régimes qui les empêchent d'établir leur pouvoir au Proche-Orient. Et donc, quand on parle pendant 4 jours d'Abdeslam, quand on décrit dans le moindre détail la couleur des murs de sa prison, quand on en fait le cerveau de cette opération, je pense qu'on en fait un peu trop, mais c'est mon avis personnel.
Vous ne prenez pas le risque de minimiser un personnage dont le procureur hier nous a dit qu'il avait un rôle central ? Le procureur Molins lui-même a prononcé ces mots. Il avait un rôle important.
Bien sûr qu'il avait
dans
un rôle
important. Dans les attentats de Paris qui ont fait 130
morts. C'est un criminel.
Survivant,
un criminel.
On peut avoir des informations.
On l'arrête, on le juge. Mais on n'en fait pas une sorte de héros pour tout le monde des fondamentalistes islamiques. C'est ça que je veux dire.
Est-ce que c'est
inquiétant ? Je veux dire que l'État doit faire preuve de beaucoup de sérénité, de beaucoup de fermeté, de beaucoup de sang-froid par rapport à cette situation, parce que c'est une situation qui va se reproduire. Je disais tout à l'heure que c'est un pion dans un immense réseau.
Mais qui en fait trop ? Le gouvernement en fait trop ?
Tout le monde en fait un peu trop.
Mais il y a une forme d'instrumentalisation ?
Je pense que on ne réfléchit pas suffisamment à la stratégie de nos adversaires. On ne réfléchit pas suffisamment au fait qu'on est engagé dans une forme de guerre mondiale. C'est pas un mouvement terroriste qui envoie des combattants sur notre territoire de manière ponctuelle. C'est un mouvement qui est en train d'affecter une immense partie du monde. Le Pakistan est en partie déstabilisé. L'Afghanistan est déstabilisé. L'Irak, la Syrie, le Yémen. Il y a des menaces aujourd'hui très fortes sur le Liban, sur la Jordanie. L'Égypte n'a échappé aux islamistes que grâce au retour d'un dictateur. La Libye est déstabilisée, l'Afrique est désormais
en occasion. On y reviendra tout à l'heure.
C'est une dictateur que des régimes islamistes.
Il faut
parler de l'Égypte. Est-ce que c'est bien ?
Il faut en tout cas comprendre qu'on est en face d'une forme de crise mondiale, pour ne pas dire de guerre mondiale.
Alors on y reviendra tout à l'heure.
Par rapport
que vous
à cette guerre mondiale, il faut que nous soyons extrêmement forts. Et pour être fort, il ne faut pas donner une importance excessive
d'accord.
à un certain nombre de combattants qui sont des criminels et qui doivent être punis
encore
avec la plus grande sévérité.
Vous étiez en Iran, je crois, il y a encore quelques jours et vous avez des positions intéressantes à défendre sur les acteurs de cette région. Je voudrais juste que vous me disiez, vous donniez votre avis sur ce qu'a dit par exemple un ancien juge antiterroriste, Alain Marceau, qui a fustigé les services secrets, belges en l'occurrence, en disant soit ils étaient nuls, soit Abdeslam était un génie. Est-ce que vous êtes troublé par le fait qu'il ait été pendant 120 jours traqué
alors qu'il était sous le nez des enquêteurs.
Ce qui est très important dans toutes ces affaires, c'est à chaque fois qu'il y a drames comme celui qu'on vient de connaître, c'est de tirer les enseignements de ce qui s'est passé. Pas pour accuser ou pour montrer du doigt tel ou tel service, mais simplement parce que on doit en permanence améliorer notre système de défense par rapport aux attaques.
Or,
il est incontestable qu'on a un problème avec Molenbeek. Voilà un territoire au cœur de l'Europe qui a abrité la quasi-totalité des terroristes qui ont frappé depuis plusieurs années. Donc on ne peut pas nier qu'il y a un sujet avec Molenbeek et qu'il y a un sujet avec la lutte antiterroriste du gouvernement belge. Je pense que le gouvernement belge a pris la mesure de la gravité de cette situation après les attentats de Paris, mais quand même 4 mois pour retrouver ce criminel qui vivait chez lui quasiment, ça pose quand même quelques questions. Et de ce point de vue-là, évidemment, il sera très intéressant de savoir comment il a pu
Est-ce qu'il faut rétablir les contrôles aux frontières entre la Belgique et la France ? Est-ce que nous, Français, nous devons les rétablir ? C'est ce que dit Alain Marceau, qui est député républicain et ancien juge d'instruction. Il le disait après le Thalys et il dit maintenant, il faut rétablir des contrôles aux frontières.
Je croyais qu'on l'avait fait.
Non, eux, ils l'ont fait pour pas que les migrants passent.
Non, mais je croyais, le gouvernement français, à ma connaissance, avait annoncé après les attentats de novembre le rétablissement des contrôles aux frontières.
Aléatoire. Mais pas des contrôles.
Pour une raison simple, c'est qu'il n'a aujourd'hui absolument pas les moyens de réaliser des contrôles aux frontières de manière fixe. Donc il faudra s'en
Mais vous pensez qu'il faudrait le faire ?
Je pense qu'en tout cas, dans la situation d'état d'urgence, il faut ne négliger aucune façon de se défendre.
Concrètement, vous dites que le gouvernement n'a pas les moyens. Quels moyens il faudrait mettre si vous
C'est simple, il y a eu au moment des attentats de novembre, il a été décidé de rétablir tous les contrôles d'identité dans les aéroports. Au bout de quelques heures, il y avait tellement d'avions en l'air qui tournaient et qui menaçaient de tomber faute de carburant qu'on a été obligé de revenir au contrôle aléatoire.
Donc il faut recruter des agents.
Parce que nous sommes dans une société avec des flux considérables d'entrées et de sorties et que nous ne sommes pas aujourd'hui équipés pour faire ces contrôles.
Mais qu'est-ce que vous feriez ?
Donc si on veut rétablir des contrôles aux frontières, il faut recruter des agents supplémentaires. Il faut surtout mettre en place des moyens moderne, informatique. Vous savez qu'il y a la question du fichier des passagers du transport aérien qui est resté pendant des années et des années en suspens à cause du vote des parlementaires européens et en particulier de la gauche. Il y a l'équipement des forces de sécurité. J'ai proposé il y a quelques jours non pas de recruter des dizaines de milliers de policiers supplémentaires parce que c'est juste impossible, mais de leur donner les moyens de fonctionner. Ils n'ont pas d'ordinateur, ou en tout cas pas moderne, ils n'ont pas de voiture. Quand ils ont des voitures, ils n'ont pas d'essence pour mettre dans les voitures. Ils n'ont pas les armes et les moyens de se défendre qui sont nécessaires.
Donc,
il faut moderniser.
Le gouvernement a quand même alloué des moyens justement pour moderniser les services de police et d'enquête.
Oui, enfin, c'est très tard. C'est très tard.
Plusieurs projets de loi.
Et je pense qu'on a focalisé pendant très longtemps la question de la sécurité sur les effectifs de police et de gendarmerie, qui est une question qui ne permet pas de résoudre les problèmes, parce que quand on regarde l'histoire des effectifs...
C'était pour répondre à ce qui avait été fait...
Quand on regarde l'histoire des effectifs de gendarmerie et de police depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit qu'en fonction des priorités gouvernementales, les effectifs augmentent de 2% ou diminuent de 2%. C'est-à-dire que ça ne change strictement rien à l'ampleur du problème qui est en face de nous. En revanche, obsédé par les effectifs. On a laissé se paupériser les forces de l'ordre qui n'ont pas les moyens de travailler. Les Américains, pour prendre cet exemple, quand vous allez aux États-Unis aujourd'hui, il faut prévoir quasiment 2 heures ou 2 heures et demie, même sur les lignes intérieures, pour prendre un avion, parce que les contrôles ont été...
Abdeslam, il n'avait pas pris un avion.
Parce que, c'est trop que les États-Unis ont ils sont de l'autre côté de l'Atlantique, mais il y a aussi des frontières qui sont surveillées de façon extrêmement précise. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place des instruments technologiques pour assurer ces contrôles. Puis ils ont aussi sous-traité à des entreprises privées le soin de faire ces contrôles. Donc voilà, c'est tout
d'accord,
ça qu'il faut faire.
S'agissant du gouvernement, vous êtes sur la politique de sécurité, vous êtes très sévère. Vous dites qu'il n'a pas anticipé la nouvelle stratégie des islamistes.
Bien sûr.
On n'a pas adapté nos outils de renseignement. On a politisé la sécurité sans la renforcer. Pourquoi vous dites-vous ça?
Parce qu'on a des débats aujourd'hui sur la déchéance de nationalité, on a une gesticulation qui est très solennelle, mais où sont les décisions concrètes à la suite des événements? Est-ce que, par exemple, il y aurait dû y avoir une grande commission d'enquête? Il y en a une maintenant,
une
commission d'enquête parlementaire qui a été décidée après bien des difficultés, mais il aurait dû y avoir une commission d'enquête plus large qu'une commission d'enquête parlementaire, dans laquelle il y aurait eu des parlementaires de la majorité de l'opposition, mais il y aurait eu aussi des experts, des responsables gouvernementaux, non pas pour accuser qui que ce soit, encore une fois, mais pour prendre les événements et voir ce qui doit être amélioré.
Donc, pour vous, le gouvernement, ne réagit pas à la mesure du risque?
Je pense qu'il est en dessous de la mesure du risque. Je pense que le ministre de l'Intérieur fait ce qu'il peut dans son coin, avec une certaine énergie. Mais voilà, François Hollande continue de faire de la gesticulation politique et ne prend pas les décisions qui s'imposent, ni en politique étrangère, parce qu'il ne faut jamais oublier
le
terrorisme, c'est d'abord une question de politique étrangère avant d'être une question de sécurité intérieure, en matière de sécurité intérieure.
Pourtant, vous parlez de François Hollande, pourtant Manuel Valls, lui, dans son discours permanent, des réflexions, des injonctions, des discours très ferme, très alarmiste, qui se veulent très réalistes sur la réalité de la menace. Il ne la sous-estime pas, Manuel Valls.
Non, je crois qu'il la sous-estime pas, mais en même temps, il suffit pas sans arrêt de brandir une menace qui contribue d'ailleurs faciliter le travail des terroristes, puisque je disais tout à l'heure que leur seul objectif, c'est de nous terroriser. Et en même temps, de ne pas prendre les décisions qui s'imposent. Il y a des problèmes de fonctionnement des services de renseignement. Il y a 5 chaînes hiérarchiques qui, en matière de renseignement en France, moi je voudrais qu'il n'y en ait que 2, qui est une chaîne hiérarchique pour le renseignement intérieur et une autre pour le renseignement extérieur. On a vu qu'il y a toujours des problèmes entre la gendarmerie et la police. On a vu ce qui s'est passé avec le GIGN qui n'était pas sollicité dans les événements de Paris. Il y a toujours, on le rencontre sur le terrain, une difficulté à travailler entre police, gendarmerie, police municipale. Tout ça, ce sont des sujets qui doivent être résolus.
Et vous dites qu'on politise trop avec la déchéance, justement, on y arrive avec vous, Christophe.
Justement, vous dites gesticulation politique, il faut des mesures concrètes. Je vais prendre un exemple très concret, la réforme constitutionnelle et la déchéance de nationalité. Dans la version votée par l'Assemblée, Abdeslam, qui est français, peut être déchu. Dans celle qui était votée par le Sénat, que vous avez soutenue, Abdeslam ne pourrait pas perdre sa nationalité française.
Je ne soutiens aucune des réformes, je suis contre toute introduction de la déchéance dans la Constitution. Pourquoi? D'abord parce que ça ne sert à rien, parce que la déchéance de nationalité existe dans le droit français.
Et c'est pas une question de portée symbolique. Mérite encore
ça
d'être français
existe
aujourd'hui.
Dans le droit français, c'est dans la tradition juridique française depuis toujours. C'est quoi la déchéance de nationalité? C'est un Français qui porte les armes contre la France doit être déchu de sa nationalité. Ça s'est produit déjà dans le passé à de nombreuses reprises. Il n'y a aucune raison de l'introduire dans la Constitution. Et l'introduction dans la Constitution...
On ne peut pas le faire aujourd'hui.
Il n'y a aucune raison. Mais sûr que si qu'on peut le faire. Bien sûr. Il y a eu d'ailleurs des déchéances de nationalité. Il y en a eu un grand nombre. Pas dans tous les cas. Mais il suffit de modifier la loi. Modifions la loi pour en accroître la portée. Mais vous avez dit quelque chose tout à l'heure, à l'instant, qui est tout à fait inexact. Vous avez dit dans le texte de l'Assemblée... On pourrait déchoir de sa nationalité.
On le rendrait apatride, mais on pourrait le déchoir.
Et en même temps, vous savez très bien que le gouvernement s'est engagé solennellement à l'Assemblée nationale à ratifier tous les traités sur la patrie. Mais c'est-à-dire qu'en fait, cette affaire ne sert à rien, tout le monde le sait. François Hollande a voulu en faire un marqueur d'une forme de fermeté dans la lutte antiterroriste. Il ferait mieux de prendre des mesures concrètes et de combattre le terrorisme.
Il l'a fait parce que Nicolas Sarkozy lui a demandé de le faire aussi.
Mais ça ne, c'est pas pour moi là, un critère. La Constitution, c'est un texte sacré qui doit être modifié le moins souvent possible. En introduisant la déchéance de nationalité dans la Constitution, on en fait un tract. On en fait un outil de communication, puisque ça ne sert à rien, puisque ça ne change rien à la réalité juridique. Rien, absolument rien. Ça rend peut-être même les choses un peu plus compliquées. Donc c'est un tract, c'est un outil de communication. Vous allez le faire de plus en plus souvent. Parce
vous êtes sévère avec des symboles auxquels les Français d'ailleurs sont attachés.
Non, la Constitution, ça n'est pas une affaire de symboles. La Constitution,
le fait de le graver dans l'arbre lui donne une dimension juridique supérieure.
Non, Madame Martichoux, la Constitution, ce n'est pas une affaire de symboles. Surtout que la Constitution, aujourd'hui, elle s'impose à l'ensemble de nos lois à travers le Conseil constitutionnel et à travers la question prioritaire de constitutionnalité.
Donc, vous ne
donc ça veut dire que mettre
position...
des symboles comme le principe de précaution, comme la déchéance de nationalité, comme l'autonomie financière des collectivités locales. Tous ces sujets-là qu'on a mis dans la Constitution pour se faire plaisir, ce sont aujourd'hui des gros inconvénients qui pèsent sur la possibilité de notre pays de s'adapter et de réagir. Donc moi, je ne veux plus qu'on modifie la Constitution, sauf quand il y a des raisons de le faire.
Sur l'état d'urgence, il y en avait. Parce qu'il y a une fragilité de l'état d'urgence.
On peut en discuter, puisque sur l'état d'urgence, lorsque nous avons préparé la réforme de la Constitution en 2008, la commission Balladur avait proposé d'introduire l'état d'urgence dans la Constitution. Nous étions prêts à le faire. Le Conseil d'État, à l'époque, nous avait expliqué que ça n'était pas utile, que ça n'était pas nécessaire,
mais
que c'était même contre-productif.
Vous seriez prêt à le voter
parce qu'on brandit souvent l'avis du Conseil d'État dans la déchéance de nationalité comme étant une raison de le faire.
Mais Conseil constitutionnel,
en l'occurrence, il change assez souvent de position.
Alors, l'article 1 plus la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce que ça vaut d'aller au Congrès? Est-ce que vous voteriez?
Non, je ne voterai pas. Je vois pas de raison de modifier la Constitution, même sur l'état d'urgence. Je ne vois aucune raison. Il y a une décision du Conseil constitutionnel, il y a une décision du Conseil d'État.
Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, François Hollande
Il doit changer sa politique étrangère.
Non, mais là, déjà, sur
la révision constitutionnelle, une vraie politique de lutte contre les terroristes.
Qu'il passe mardi après le vote au Sénat.
Voilà. Il a échoué, c'est une évidence.
Bon, d'accord.
Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il vienne devant les Français et dise « Je renonce dès mardi soir si le Sénat, effectivement... »
Je ne veux pas lui donner des conseils.
Il va dire à cause de la droite, je renonce.
Oui, c'est la faute de Sénat, c'est la faute de la droite.
Au lendemain des attentats, à Versailles, je l'ai écouté avec respect. J'ai trouvé d'ailleurs qu'une partie de son discours était très positive, notamment celle qui donnait le sentiment qu'il avait enfin compris que cette menace était une menace militaire mondiale et qu'elle nécessitait une nouvelle alliance. Je ne l'ai pas applaudi parce que je n'ai pas aimé cette affaire de révision constitutionnelle qui m'est apparue comme un artifice de communication pour... établir un rideau de fumée devant une forme d'impuissance du gouvernement français.
Donc
je suis contre et je ne voterai.
Et vous êtes contre et vous êtes, il faut mieux jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire article 1 et CSM, non.
Puisqu'on est dans
sur le CSM, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas du tout une réforme avec laquelle je suis en accord et donc je vois pas pourquoi j'irai la voter.
D'accord. Bon, puisqu'on est dans les symboles, on va continuer de parler de symboles. Fin de la guerre d'Algérie, commémoration le 19 mars, décision de François Hollande. Qu'est-ce que vous en dites? Nicolas Sarkozy était très contre.
19 mars, c'est le feu.
Est-ce que ça valait une polémique?
Quand on est président de la République, on ne se sert pas de l'histoire de son pays pour faire de la communication. Le président de la République, il est là pour rassembler et il n'est pas là pour diviser les Français. Le 19 mars, c'est une date qui ne peut pas être retenue comme une date de célébration nationale. Pourquoi? Parce que c'est la fin des combats en termes de signature d'un accord. Et on sait qu'au lendemain de la signature de cet accord, il y a eu des centaines de milliers de harkis qui ont été massacrés par ceux qui avaient signé un accord comme quoi les combats étaient terminés. Et il y a eu des centaines de milliers de Français, qu'on appelle des pieds noirs, des Français d'Algérie, qui ont dû tout abandonner, rentrer en France, souvent d'ailleurs pour tout reconstruire, et souvent d'ailleurs dans des conditions de grande hostilité. Donc célébrer le 19 mars... c'est exprimer à l'égard des victimes, c'est-à-dire des harkis et des pieds noirs, une forme de mépris. Donc c'est une division...
Pourquoi il fait ça, François Hollande? Alors, parce qu'il le sait, tout ça.
Il faut lui poser la
question.
Non,
mais vous avez une idée.
Je pense que quand on n'a plus de prise sur les événements, bah, il reste les commémorations.
Alors, on commémore, on utilise l'histoire,
on fait des grands discours.
Ce
qu'on attend de lui, c'est qu'il prenne des décisions, c'est qu'il assume les responsabilités qui sont les siennes. C'est pas aux hommes politiques d'écrire l'histoire. Et je pense que s'agissant des grandes commémorations nationales, il faut s'en tenir à trois. Il y a le 14 juillet, c'est la fête nationale, parce que c'est au fond le début de la République. Il y a le 11 novembre, parce que c'est la fin de la plus grande tuerie qu'il y ait eu, en tout cas s'agissant de la France en Europe. Et il y a le 8 mai, parce que c'est la victoire sur le nazisme. Voilà, on va s'arrêter là. On va pas aller faire la repentance vis-à-vis des Russes parce que Napoléon est allé jusqu'à Moscou. On va pas faire la repentance vis-à-vis des Espagnols parce que on s'est très mal conduit au moment des guerres napoléoniennes. Il faut arrêter. D'ailleurs, quand on regarde les autres pays européens, ils ont pas ces préoccupations-là. Il y a pas ces débats-là ni en Angleterre ni dans les autres
Encore
pays européens.
Inutiles.
On est tout seul à se créer des raisons de division nationale.
Alors, on va parler maintenant la loi El Khomri, Christophe Jacques-Lubizine.
Est-ce qu'il y a une méthode de gouvernement social-démocrate de François Hollande, c'est-à-dire la négociation, sur la loi El Khomri, apparemment la rue est calmée avec une version 2 moins ambitieuse, mais finalement peut-être qui va être adoptée. Est-ce que c'est un peu l'antinomique de ce que vous voulez faire, vous, le passage en force?
D'abord, je voudrais vous faire remarquer que moi, j'ai réussi quelques belles négociations.
Sur les retraites?
J'ai fait signer la CFDT sur une réforme des retraites, qui, à ma connaissance, n'est pas le résultat aujourd'hui que le gouvernement a obtenu. La loi El Khomri, telle qu'elle va être présentée au Parlement, c'est une loi qui n'a plus aucun intérêt.
Aucun intérêt ou un petit intérêt ?
Il reste un point positif qui est l'article sur les licenciements économiques, mais il y a 70% de chances pour qu'il soit modifié au cours du débat à l'Assemblée nationale
par le
groupe socialiste. Tout le reste, ce sont au contraire des contraintes supplémentaires qui vont peser sur les entreprises, par exemple sur le compte épargne temps pour les sur le
compte personnel d'activité,
sur le forfait jour pour les petites entreprises, sur l'obligation pour les petites entreprises lorsqu'elles veulent négocier et qu'elles n'ont pas d'organisation syndicale, de faire appel à un syndicaliste extérieur à l'entreprise, qui est une aberration en termes de fonctionnement
Donc
de l'entreprise.
Donc les nouvelles contraintes sont supérieures.
Donc, moi, j'étais prêt à voter la première mouture qui, pour moi, présentait un certain nombre d'inconvénients, mais qui avait quand même de vraies avancées pour les entreprises. Dans cette mouture-là, il n'y a plus d'avancées, ou quasiment
plus
d'avancées.
Il a cédé à la rue ? François Hollande a cédé ?
En fait, je pense que c'est plus compliqué que ça. Cette réforme ne pouvait pas aboutir. Et elle ne pouvait pas aboutir pour une raison simple, c'est que la démocratie, ça fonctionne avec des règles. François Hollande, il a été élu sur un programme de gauche. Souvenez-vous, mon le ennemi, c'est la finance, j'aime pas les riches, et je mets une taxe à 75% sur les hauts revenus. Il vient maintenant avec M. Valls et M. Macron, et il fait des tentatives... des tentatives, en tout cas, d'aller dans le sens d'une pensée économique plus libérale. Moi, je trouve ça très bien. Simplement, les Français considèrent qu'il n'a pas été élu pour ça. Donc, une grande partie de son électorat lui dénie le droit de conduire cette politique. Et surtout, sa majorité n'a pas été élue sur ce projet-là. Et moi, ça m'amène à dire avec beaucoup de force que l'élection de 2017 doit être l'occasion, c'est pour ça que je prépare mon programme depuis presque 4 ans, doit être l'occasion d'afficher à l'avance, de la manière la plus précise qui soit, les changements qu'on veut faire.
Mais vous pensez que le fait de le dire avant viendra à bout des résistances qui vont se manifester ? Il y aura des blocages ?
Mais bien sûr, c'est très compliqué de se mobiliser au lendemain d'une élection présidentielle et d'une élection législative, quand il y a eu un grand débat dans le pays et que les Français ont tranché. C'est très difficile de se mobiliser immédiatement contre des décisions qui ont des décisions...
Mais qu'est-ce qui empêchera une grande manif, la CGT, Force ouvrière, peut-être la CFDT ou les jeunes, d'aller contre votre programme, qui est 10 fois plus que la loi El Khomri.
On peut rappeler,
retour aux 39 heures de la fonction publique, la mise en place du contrat de projet, la suppression de 500 000 emplois publics. Vous allez 10 fois plus loin.
Bien sûr.
Ça va être difficile, non ?
Ceux qui les en empêchera, c'est la légitimité de l'élection présidentielle et législative.
Ça suffit.
Ça n'empêchera pas certains organismes très conservateurs de vouloir combattre ces réformes ou vouloir les manifester. Mais il y aura une différence, c'est que le président de la République aura la France derrière lui pour mener ces réformes.
Mais le temps de la loi du Parlement, c'est long. Vous risquez
Raccourcir. Ah, oui. On peut le raccourcir. Il y a des procédures dans la Constitution de la Ve République qui permettent d'aller vite. Alors, il y a d'abord les ordonnances. Il y a toute une série de formules qui vont du vote bloqué au 49-3. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet principal, c'est que si on veut aller vite, il faut que les textes soient prêts avant les élections. Et il faut que l'équipe gouvernementale soit, j'ai envie de dire, prête au moins dans sa tête avant les élections. Il faut que le 1er juillet 2017, c'est-à-dire quand le Parlement est installé, le ministre du Travail arrive avec un code du travail qui a été écrit et qu'il peut mettre tout de suite sur la table du débat. Il faut qu'il arrive avec un texte supprimant la durée légale du travail et instaurant le dialogue dans les entreprises.
François Fillon, c'est valable, quelles que soient les conditions de l'élection du président de la République. Imaginez que vous affrontiez au deuxième tour à Marine Le Pen et que vous bénéficiez d'un fort soutien du peuple de gauche. Vous pourrez faire comme si ça n'avait pas existé et appliquer votre programme très libéral.
La question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'il faut pour redresser le pays? C'est ça le vrai sujet. Hein, c'est pas de savoir quels sont les accords tactiques que les uns ou les autres vont passer avec tel ou tel fraction politique de moins en moins
représentative. Sauf qu'Elisabeth a raison, votre légitimité, si vous êtes élu président face à Marine Le Pen,
elle sera basée sur la clarté du discours.
Oui, mais sur
et
des
moi,
électeurs
je n'aurai pas
qui
d'autres
pas
discours.
Signer forcément tout votre programme.
Bien sûr, mais je n'aurai pas d'autres discours que celui que je tiens aujourd'hui. Pourquoi ? C'est pas un excès de rigidité. C'est simplement parce que je considère que la France est dans une très grande difficulté, que sa situation économique et financière est beaucoup plus grave que ce que aujourd'hui les uns ou les autres disent. Je pense que notre dette est insoutenable. Je pense que
vous l'aviez déjà dit en 2007.
Hein. Oui, bien sûr. Je pense que pourquoi est-ce que depuis 2007 les choses ont pu continuer ? Pour une seule raison, parce qu'il y a à la tête de la Banque Centrale Européenne quelqu'un qui fait marcher la planche à billets, ce qui fait baisser les taux d'intérêt. Lui-même commence à tirer la sonnette d'alarme. M. Draghi a dit il y a quelques jours qu'il fallait maintenant commencer vraiment à faire des réformes. Qu'est-ce que c'est que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ? C'est des doses d'héroïne de plus en plus importantes. Et il y a un moment où les doses d'héroïne de plus en plus importantes, ça provoque ce qu'on appelle une overdose. Mmh. Et l'overdose, elle va venir. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir, mais elle va venir si on n'y prend pas garde. On a ensuite un problème de compétitivité de l'économie française qui est évident. On voit tous les jours notre compétitivité s'effondrer avec les conséquences sur l'emploi. Donc, ou bien on propose un programme de redressement qui permet de redresser la France, ou alors on n'est pas candidat à l'élection présidentielle.
Donc on a
être candidat à l'élection présidentielle juste parce qu'on a envie du pouvoir, c'est quelque chose que, pour ma part, je considère comme extrêmement choquant.
Petite question d'actualité avant la pause, il nous reste quelques secondes. Le prélèvement à la source, par exemple, est-ce que vous reviendrez dessus en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, ou est-ce que vous le garderez tel quel avec tout ce qui aura été préparé à Bercy ?
Je reviendrai d'autant plus dessus qu'il n'aura pas été mis en œuvre. Contrairement à ce qu'on
en 2018.
Raconte, hein, comme le tiers payant,
mais
d'ailleurs, c'est pareil.
La machine sera lancée, dit le gouvernement.
Vous comme la gauche sur la TVA sociale, vous
pourquoi c'est que, pour moi,
parce qu'il y a des gens de droite qui le soutiennent, qui disent c'est plus efficace, c'est mieux.
Je ne suis pas contre, dans le principe, le prélèvement à la source. Ce que je dis, c'est qu'il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité, c'est de baisser la fiscalité. Mm-hmm. Et en particulier, de baisser la fiscalité sur les investissements, pour qu'il puisse y avoir de nouveau des investisseurs en France et que la France puisse retrouver la maîtrise de sa croissance et de son destin économique. La question du prélèvement à la source, c'est une question technique qui passe après la priorité qui est la baisse des impôts.
On y revient après la pause. C'est la fin de cette première partie d'émission. Merci beaucoup François Fillon. À tout de suite.
Suite du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Fillon, député Les Républicains de Paris, ancien Premier ministre. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Alexis Brazet, directeur du Figaro, et Christophe Jacubizine de TF1 et LCI. François Fillon, pour clore ce chapitre socio-économique, une question sur l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires annoncé par le gouvernement. 1,2% en deux temps, c'est justice après 6 ans de gel ?
les fonctionnaires ont besoin d'être augmentés. Et on a besoin surtout de leur redonner des perspectives de carrière, parce que personne ne peut gérer un immense corps comme celui de la fonction publique ou des fonctions publiques avec des perspectives d'augmentation zéro pour les 20 ans qui viennent. Simplement, dans un pays aussi endetté que le nôtre, il n'est pas possible d'augmenter les fonctionnaires sans deux conditions. La première condition, c'est d'en réduire le nombre, et la deuxième condition, c'est de leur demander un effort de travail supplémentaire. Si on ne fait pas ça, on fait ce que fait le gouvernement actuellement, c'est-à-dire on ouvre les vannes de la dépense publique avec le point d'indice des fonctionnaires, avec la garantie jeune, avec toute une série de décisions qui vont précipiter la crise financière que j'évoquais tout à l'heure. On s'est beaucoup moqué de moi quand j'ai parlé de faillite. On m'a d'ailleurs expliqué à l'époque doctement qu'un État ne pouvait pas faire faillite. On riait déjà un peu moins quand on a vu la situation de la Grèce. On sait aujourd'hui que l'augmentation des taux d'intérêt se produira et que le jour où elle se produira, l'économie française sera asphyxiée. Et à ce moment-là, il faudra faire des opérations chirurgicales sur les effectifs d'une façon extrêmement brutale. Et là, on aura
donc là,
des difficultés
vous dites
sociales.
Qu'il faut 500 000 emplois publics en moins sur 5 ans.
Pourquoi est-ce que
et revenir aux 39 heures dans la fonction publique.
Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut réduire sur 50, 500 000 le nombre des emplois des trois fonctions publiques. D'abord parce que c'est le chiffre qui correspond grosso modo à ce qui a été fait dans les autres grands pays européens qui ont retrouvé le plein emploi et qui ont retrouvé la croissance. Deuxièmement, parce que c'est le résultat du passage de 35 à 39 heures. Je fais un calcul qui peut paraître un peu primaire, mais si on passait de 35 à 39 heures dans toutes les fonctions publiques, c'est l'équivalent de 500 000 emplois. Je n'ignore pas que pour passer de 35 à 39 heures, il va falloir accepter des augmentations de salaire et il va falloir accepter une amélioration des perspectives et puis de l'organisation du travail. Par exemple, dans le secteur hospitalier, il y a des vrais sujets d'organisation du travail.
Mais quand on prend 39 heures, payer 35, payer 39 ou payer entre les deux ?
Payer entre les deux dans le cadre d'une négociation pour faire en sorte que d'un côté on réduise le poids de la dépense publique et de l'autre côté on donne aux fonctionnaires des perspectives de carrière. Il n'y aura jamais de perspectives de carrière pour des fonctionnaires dans le cadre actuel, c'est-à-dire avec le nombre de fonctionnaires payés travaillant 35 heures. Ça n'existe pas dans un pays qui a 2200 milliards de dettes. Il y a ici Gilles Carrez, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui dénonce en permanence la gravité de la situation financière. Il pense exactement la même chose que moi. L'heure de vérité va sonner, et le jour où elle va sonner, elle va être brutale.
Et la garantie jeune, c'est irresponsable de la promettre.
C'est la même chose. Je veux dire, de quoi les jeunes ont besoin ? Ils ont besoin de travail. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de travail ? Ils n'ont pas de travail parce qu'il y a un droit du travail trop rigide et surtout parce qu'il n'y a pas de compétitivité de l'économie française, parce qu'il y a trop de charges, trop d'impôts et trop de dettes. Donc en mettant en place une nouvelle garantie pour les jeunes, eh bien on va accroître encore un peu plus les déficits, on va accroître encore un peu plus les dépenses publiques.
Donc pourquoi François Hollande annonce-t-il cette garantie jeune ?
Et donc il n'y aura pas d'emploi
pour les
jeunes.
Pourquoi est-ce qu'il l'annonce ?
Parce que c'est toujours
la généralisation.
C'est pour ça que je prône une vraie transformation économique et sociale. Si vous regardez ce qu'on a fait tous, je prends ma part de responsabilité depuis 30 ans contre le chômage. On a utilisé des instruments qui n'ont jamais fonctionné. On a voulu subventionner les emplois dans les petites entreprises. Ça n'a pas marché. On a voulu baisser le temps de travail à 35 heures. Ça n'a pas fonctionné. Le chômage a continué d'augmenter. On a mis des centaines de milliers de personnes en pré-retraite pensant que ça allait permettre de baisser le chômage. Ça n'a pas fonctionné. On a créé des emplois jeunes ou des contrats aidés qui coûtent des milliards, qui devraient être affectés à la formation, notamment à l'apprentissage. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, on peut continuer la liste, on peut mettre en place encore des dispositifs qui consistent à gérer une situation plutôt qu'à chercher
apporter des solutions pérennes et de structures. Christophe Jacubizine.
On va parler d'immigration en Europe. Juste avant le week-end, un accord a été signé avec la Turquie et l'Europe. L'idée, c'est qu'on a besoin de la Turquie pour gérer le flux de migrants.
Bien sûr qu'on a besoin de la Turquie. La Turquie, d'abord, c'est un grand pays et c'est une grande nation. Vous savez, moi, je pense qu'il faut toujours raisonner en termes de politique étrangère en regardant où sont les nations, c'est-à-dire où sont... Parce que c'est la base du fonctionnement des relations internationales. C'est quoi des nations ? C'est des peuples qui ont une vraie raison de vivre ensemble sur un territoire et qui, en général, ont une histoire, une longue histoire. Donc, dans cette région, il y a la Turquie, qui est une nation, il y a l'Iran, qui est une nation, il y a l'Égypte, qui est une nation, il y a Israël, qui est une nation, puis après, ça devient plus compliqué. on est après avec des créations artificielles.
Donc on peut faire confiance à la Turquie
pour garder les... Je ne dis pas qu'on ne peut pas lui faire confiance, mais je dis que l'existence de cette nation turque nous oblige à la considérer et à discuter avec. Alors après, il y a deux sujets. Le premier, c'est qu'il faut parler franchement avec les Turcs. Bon, il y a trois sujets sur lesquels on ne leur parle pas franchement. Le premier sujet, c'est pourquoi ils laissent passer les djihadistes sur leur territoire. Le régime turc n'est pas un régime très libéral, c'est un régime autoritaire. Relativement autoritaire. Donc j'imagine que les services de renseignement savent très bien ce qu'ils font. Donc ils le font à propos.
Ensuite, à dessein.
À dessein. Ensuite, ils bombardent les Kurdes qui sont les seules forces avec l'armée syrienne qui combat le terrain l'État islamique. Donc c'est un deuxième sujet. Et puis enfin, le troisième sujet, c'est la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Je pense qu'on fait une très grave erreur en ne disant pas la vérité à la Turquie, en lui laissant espérer des perspectives qui ne se produiront jamais.
La vérité,
c'est que la Turquie n'adhérera jamais à l'Union européenne. En tout cas, à horizon...
Donc là, il ne fallait pas réouvrir un nouveau chapitre.
Vous avez des amis comme, à droite, comme Bruno Le Maire, qui disent attention, on leur ouvre la porte, etc. Vous dites...
Je trouve que c'est une drôle de façon d'agiter un épouvantail qui n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? C'est très simple. Pour adhérer à l'Union européenne, il faut, pour qu'un nouveau pays adhère à l'Union européenne, il faut l'unanimité des États membres. Donc déjà, il faut l'unanimité des 28 pour que la Turquie puisse adhérer à l'Union européenne. Mais en plus, en France, il faut un référendum ou une décision du Parlement, des deux assemblées à la majorité des 3/5. Tout le monde sait bien qu'il n'y a aucune chance ou aucun risque, plutôt.
Mais est-ce qu'il faut réouvrir, comme on vient de le faire, les négociations, d'ouvrir un nouveau chapitre?
Donc il faudrait dire à la Turquie, vous ne pourrez pas adhérer à l'Union européenne. Il y aura toujours des obstacles à cette adhésion, qui sont d'ailleurs des obstacles parfaitement compréhensibles. L'Union européenne ne peut pas s'étendre sans limite. La Russie a presque plus de raisons de rentrer dans l'Union européenne en termes de culture et d'histoire que la Turquie.
Mais alors, vous êtes sûr qu'Ankara souhaite vraiment entrer dans l'Union européenne ou est-ce que c'est un jeu marchandage?
Je pense que M. Erdogan ne souhaite pas rentrer dans l'Union européenne. Je ne sais pas ce que pense le peuple turc, mais en tout cas, on est en train de le tromper. Et en le trompant, on est en train de se créer un adversaire de façon inutile. C'est-à-dire que j'ai dit que c'était une grande nation, il faudra de toute façon faire avec cette grande nation turque. Le mieux, c'est de lui parler le langage de la vérité. Il faut dire aux Turcs qu'ils ne pourront pas adhérer à l'Union européenne. Je pense en plus que l'Union européenne, il va falloir en changer radicalement l'organisation.
Et
la Turquie aura encore moins sa place dans la nouvelle organisation européenne que j'envisage.
Dans cette affaire, dans cette solution à la crise migratoire qui a été conclue entre l'Union européenne et la Turquie, est-ce que François Hollande s'est fait imposer la solution par Angela Merkel?
Mais on voit bien que François Hollande est totalement absent de tous ces débats. Il ne pèse pas dans les débats ni sur les réfugiés, ni sur la stratégie que l'Europe devrait avoir face aux terroristes. Parce que derrière cette question de réfugiés, il y a quand même toujours la question que j'ai évoquée au début de cette émission de la guerre que nous mène l'État islamique. Est-ce qu'on a une stratégie aujourd'hui qui va nous permettre cesser la menace de l'État islamique? Absolument pas.
À ce titre, le départ de Poutine de Syrie, d'abord, vous a surpris ou pas?
D'abord, c'est le départ des Russes.
La décision de Poutine de retirer les forces russes de Syrie, pardon.
En tout cas, ça montre une chose, c'est que le président russe, il fait exactement ce qu'il dit. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'on peut parler avec lui.
Vous voulez maintenant comment c'est très simple.
Premièrement, il a considéré à un moment donné que le régime d'Assad allait s'effondrer et que l'État islamique allait prendre la place. Alors que nous pensions avec nos illusions que si le régime d'Assad s'effondrait, ce seraient des démocrates qui prendraient le pouvoir. Bon. Donc il a apporté son soutien au régime d'Assad qui est aujourd'hui renforcé. Mais en même temps, comme je l'ai toujours dit, je l'ai d'ailleurs écrit dans mon livre, Poutine n'est pas l'allié inconditionnel d'Assad. Assad, d'ailleurs, pour lui, ne représente rien du tout. Ce qu'il souhaite simplement, c'est que l'État islamique ne prenne pas le pouvoir en Syrie, et puis il souhaite défendre les intérêts de la Russie dans cette région. Mais il est tout à fait prêt à accepter toute autre solution politique que celle d'Assad. Puis il y a une dernière chose qui montre que Poutine est habile, c'est qu'il a réussi à entrer dans un face-à-face avec les Américains, dans la question du Proche-Orient, face à face, qui nous exclut complètement.
Il faudrait se remettre à parler avec lui.
Où est François Hollande? Alors, François Hollande avait annoncé à Versailles qu'il allait parler avec Poutine. Et d'ailleurs, il est allé en Russie pour le faire. Le seul ennui, c'est qu'il a fait d'abord un crochet par Washington, et que manifestement, à Washington, on a dû le chapitrer, parce que la conversation avec Poutine a été beaucoup moins ambitieuse que ce qu'on espérait. Il n'y a aucune véritable coopération avec la Russie sur la crise au Proche-Orient.
Donc la diplomatie française n'est pas autonome, elle n'est pas réaliste, elle se trompe dans ses diagnostics.
Bien sûr, je le dis depuis 4 ans, donc je peux pas, vous n'allez pas m'accuser de changer d'avis. Je dis depuis 4 ans que pour régler la question syrienne, il ne faut pas mettre le départ d'Assad comme préalable, parce que ça ne marchera pas. Il faut discuter avec les Russes, il faut discuter avec les Iraniens.
Vladimir Poutine,
et il faut engager l'Europe dans un mouvement collectif.
Il est la solution du combat contre Daesh dans la région.
Non, bien sûr que non, il n'est pas la solution, mais c'est un allié parmi d'autres.
Vous le connaissez bien,
d'autres.
Je ne sais pas si vous lui avez parlé récemment.
C'est un allié parmi d'autres, pourquoi ? Parce que la Russie est encore plus menacée par la montée de ce que j'appelle moi les totalitaristes islamiques. Plutôt que de parler de djihadistes ou de terroristes, je pense que le mot le plus adapté, c'est des totalitaires qui veulent imposer leur mode d'organisation de la société par la violence. Et la Russie est bien plus directement concernée que nous, parce que c'est à ses frontières et sur son territoire, à ce danger-là. Donc Vladimir Poutine, c'est un allié de circonstances dans un combat qui concerne la défense d'une certaine forme de civilisation.
Entre nous et la Russie, il y a la question des sanctions et de l'embargo. C'est-à-dire que
c'est pour ça que je dis que François Hollande a totalement échoué sur cet effort de retrouver avec la Russie des relations normales, parce que s'il voulait que la Russie soit vraiment notre allié dans ce combat, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est de réclamer à ses alliés européens la levée des sanctions. On ne peut quand même pas dire on est engagé dans un combat ensemble au Proche-Orient, on va d'ailleurs payer le prix du sang dans ce combat, et en même temps on se sanctionne économiquement. J'ajoute que ces sanctions n'ont eu strictement aucun effet sur la politique russe. Au contraire, comment on peut penser que des sanctions économiques vont faire reculer un pays immense et aussi fier que la Russie. Et deuxièmement, elle ruine nos agriculteurs. Donc c'est vraiment perdant-perdant, cette affaire de sanctions.
Christophe Jacubizine.
Encore un sondage ce matin où, pardonnez-moi l'expression, vous êtes à la traîne par rapport aux autres, à vos rivaux candidats aux primaires, Juppé, Sarkozy, même le maire, vous êtes derrière. À quoi vous attribuez ce désamour ?
Sondage au Doxa pour
je n'accorde aucune importance à ces sondages. Ce sont des sondages très étranges. Ce sont des sondages qui concernent une élection dont on ne connaît pas les candidats, dont on ne connaît pas les programmes et dont on ne connaît pas les électeurs.
On connaît certains candidats.
Par exemple, vous sondez M. Sarkozy qui annonce tous les jours qu'il n'a pas pris sa décision d'être candidat.
Il y a quand même de fortes chances, non ?
Non,
vous n'y croyez pas ?
Vous n'en savez rien du tout.
Il n'y a pas plus de chances qu'il y aille qu'il n'y aille pas ?
La question n'est pas là. La question, c'est que vous faites des sondages, les sondeurs font des sondages sur un objet qui n'existe pas dans l'esprit des Français. Regardez les sondages.
Les programmes, on les connaît.
Pas du tout.
On sait le vôtre. Vous connaissez, ça fait 2 ans que vous dites en programme.
Vous connaissez que le mien.
Le plus ambitieux,
ce qui serait intéressant.
Mais le vôtre, c'est celui de tous les autres.
Vous devriez monter, du coup.
Ce qui serait intéressant, c'est que vous fassiez des sondages sur les programmes, par exemple. Demandez aux Français ce qu'ils pensent de telle ou telle mesure.
Mais vous avez presque tous les mêmes programmes en matière économique. Et d'ailleurs, vous dites que vous avez été pillé.
Ça prouve, Mme Martichoux, d'abord, je ne dis pas ça. Ce sont des commentateurs qui disent ça, et ça prouve que vous n'avez pas lu les programmes. Parce qu'il n'y a rien de commun.
La baisse des fonctionnaires, la baisse sur la matière économique, c'est
superficiel. Prenons l'exemple des fonctionnaires.
300 000 sur un mandat de Nicolas Sarkozy, 500 000 pour vous et Bruno Le Maire.
Monsieur Sarkozy, il faut essayer de regarder le raisonnement. Monsieur Sarkozy dit on va faire du 1 sur 2. C'est-à-dire on va revenir à ce qu'on a fait quand on était au pouvoir entre 2007 et 2012, et on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux. Je dis que c'est une politique qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas et qui ne permet pas d'atteindre l'objectif qui est le nôtre, qui est de retrouver l'équilibre de nos finances publiques. Donc moi, je propose le passage à 39 heures. C'est ça le vrai sujet. Et ce passage à 39 heures, il me permet de présenter un chiffre qui est plus élevé que le sien. Donc on voit bien qu'il n'y a rien à voir entre ces deux programmes.
Tout le monde a le même objectif, c'est sur les moyens qu'on n'est pas d'accord.
Non. Il y a au fond des programmes coup de menton. Des programmes pépères, il y a un programme casting, et il y a un programme qui est le maire. Je vous laisse attribuer, c'est vous qui faites...
Non, c'est vous qui l'avez dit.
Moi je parle des programmes, je parle pas des hommes. Et le seul programme qui a été construit depuis 3 ans avec des professionnels, avec des experts, avec des élus, dont d'ailleurs beaucoup sont ici et qui sont très nombreux à me soutenir, ce programme, c'est un programme concret, précis, qui va dans le détail, où on ne
cherche pas d'échappatoire. Donc vous dites que la campagne n'est pas à niveau pour l'instant.
Je vais prendre
et
un autre exemple qui est celui des 35 heures. Vous allez me dire que tout le monde est d'accord pour supprimer les 35 heures. Ben, c'est pas vrai. Quand on regarde les programmes, le programme de M. Sarkozy dit qu'il faut supprimer les 35 heures, mais que toutes les heures au-dessus de 35 heures doivent être payées. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté de négociation.
Et Alain Juppé dit qu'on ne peut pas aller au-delà de 39 heures. Pour répondre à la question de Christophe Jacubizine, si ça ne marche pas dans les sondages qui se suivent, se succèdent et se ressemblent, c'est parce que justement vous n'avez pas réussi à imposer votre différence.
Parce que vous avez été premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans.
Non, il y a des sondages de popularité. Il y a des sondages de popularité tous les mois. Moi, dans lequel je reconnais derrière Alain Juppé, mais devant tous les autres. Je considère que ces sondages sur les primaires sont des sondages qui ne devraient pas, en réalité, avoir lieu tant que l'organisation des primaires n'est pas connue. Moi, je me déplace tous les jours en province. J'étais avant-hier à Dole et avant en Alsace. Je vois énormément de monde, les réunions sont pleines à craquer. Et qu'est-ce que me disent les gens ? Mais qui ne savent pas comment fonctionnent les primaires, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir aller voter.
Pourquoi ça baisse ? Parce que... Il y a du retard dans l'organisation.
Mais bien sûr. Au-delà des programmes, est-ce que les gens vous demandent un droit d'inventaire personnel ? Est-ce que, par exemple, il n'y a pas un moment donné où vous devez dire. Le fait d'avoir été Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans jusqu'au bout, d'avoir renoncé à la TVA sociale au début, de l'avoir fait à la fin, le fait d'avoir eu cette peut-être guerre fratricide avec Jean-François Copé, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il y a un problème personnel de François Fillon ?
D'abord, tout ça est écrit dans mon livre. Et deuxièmement, il ne vous a pas échappé que le fait d'avoir gouverné, c'est la caractéristique de tous les candidats à la primaire, n'est-ce pas ? Il y a un ancien président de la République, il y a un ancien Premier ministre qui est responsable de la dissolution, si je ne m'abuse, et il y a un Bruno Le Maire, qui était directeur de cabinet du Premier ministre au moment du CPE et qui a été 4 ans dans mon gouvernement.
Il n'y a pas un pour acheter l'eau.
Donc, non, mais je veux dire que cette présentation qui consisterait à des nouveaux, focaliser des anciens, c'est pas vrai. Sur ma seule personne, le fait d'avoir gouverné ne correspond pas à grand-chose. J'ajoute que je pense qu'après l'expérience de François Hollande, les Français ont plutôt envie d'avoir quelqu'un qui a déjà gouverné que quelqu'un qui n'a jamais gouverné.
Et alors justement, qu'est-ce qu'incarne Alain Juppé pour caracoler en tête de la popularité ? Lui, il case les deux coches. Comme
mais moi, je ne suis pas un expert électoral, je ne suis pas un commentateur de sondage. Je viens présenter un programme.
Non, mais vous dites qu'il incarne la prudence et il incarne les schémas politiques du XXe siècle.
C'est un débat.
C'est pas flatteur.
C'est un débat qu'on a souvent eu ensemble, d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé. Alain Juppé considère que la France est fragile, qu'elle est très éruptive et qu'on ne peut la réformer que de façon très prudente.
C'est pour pas ça qu'il est populaire, c'est que les Français sont plus conservateurs et prudents
que je méprise, puisque ça a été très longtemps mon propre jugement. Simplement, je considère aujourd'hui, et c'est le résultat au fond de l'expérience qui a été la mienne, notamment pendant 5 ans, et du travail que j'ai fait depuis 4 ans, je considère aujourd'hui qu'il y a une telle urgence pour empêcher la France de décrocher et d'entrer dans une spirale économique et financière et
qu'on
sociale.
Peut pas être prudent, qu'on peut pas se permettre
que ce mode de fonctionnement-là ne permettra pas de nous sortir d'affaires. C'est pour ça que je propose un programme qui est beaucoup plus radical. Je comprends que ça soit difficile, que ce programme puisse ne pas être populaire, mais en même temps, moi, je sens sur le terrain, quand je me déplace, qu'il y a beaucoup de colère de la part des Français face à l'immobilisme des responsables politiques. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la vraie campagne des primaires, qui commencera à l'automne, quand on connaîtra les candidats, qu'on connaîtra les règles du jeu et qu'on connaîtra les programmes...
Ça va cristalliser, se décanter en votre faveur, espérez-vous. François Fillon, on accueille Benoît...
En faveur de mon programme, je n'ai peu d'importance dans tout ça.
On accueille Benoît Galeret, qui nous rejoint, qui a scruté les réseaux sociaux depuis le début de l'émission, et qui va compléter par quelques questions de téléspectateurs.
Il y en avait, je vous le confirme, bonjour. Beaucoup de réactions, vos réseaux étaient bien réveillés en ce dimanche, Jean-Marc vous trouve serein, déterminé, sûr de l'efficacité du programme le plus abouti et crédible, clair, précis, affûté, excellent, dit encore Florence. Vous voyez, ils étaient là, vos soutiens. Mais en effet, ces sondages en inquiètent ou en réjouissent certains. Ça dépend de quel côté ils se positionnent. Fillon, c'est cuit, dit déjà Bernard en découvrant les les résultats de ce matin. Et ce qui revient très souvent, c'est qu'on a du coup du mal à vous différencier, selon les tweets que je lis, de Nicolas Sarkozy. Comment justifiez-vous votre candidature en parallèle de Nicolas Sarkozy, alors que vous appliquiez sa politique et que vous souteniez il essaye de dézinguer Sarko, c'est des manigances. Comment peut-on encore croire que nous écoutions son discours ?
Vous êtes passé des Twitter fillonistes au Twitter Sarkozy.
C'est à peu près ça.
Pouvoir aller ensuite vers vis-à-vis des Twitter qui représentent la communauté nationale dans son ensemble.
Alors je ne sais pas si ce sont des Sarkozy, parce qu'ils ne trouvent pas forcément positif que vous soyez aussi proche de lui. On se demande, en tout cas Zen se demande, si vous ne regrettez pas parfois de ne pas avoir eu le courage de démissionner à l'époque, et si aujourd'hui les choses ne seraient pas toutes différentes.
C'est évidemment exactement le contraire, c'est-à-dire démissionner quand on est responsable du gouvernement et de la majorité en pleine crise, c'est le contraire du courage, ça s'appelle de la lâcheté.
Mais ça serait plus simple aujourd'hui si vous aviez démissionné ?
Pas pour moi. Pour moi, ça aurait été un acte de lâcheté, et je pense d'ailleurs que la majorité de l'époque me l'aurait reproché et ne me l'aurait pas pardonné. Il y aurait moins de parlementaires présents, comme c'est le cas aujourd'hui dans cette salle.
Alors pour ceux qui n'y voient pas très clair, JF vous demande en deux mots, qu'est-ce qui différencie votre projet par rapport aux autres ?
Ben, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant. C'est le seul projet qui soit radical, qui soit construit avec précision, c'est-à-dire avec des textes qui vont être prêts à être votés immédiatement. Par exemple, quand je parle de la réforme du Code du Travail, moi je ne fais pas des discours vagues sur la réforme du Code du Travail, je prends le Code du Travail tel qu'il est, je garde ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales, donc oui, je ne le réécris pas, les normes sociales fondamentales, ça fait 150 pages, et je sors le reste, que je renvoie à des processus de négociation dans les entreprises, dans les branches, ou en interprofessionnel, suivant les cas. Et ensuite, je propose un mode de gouvernement différent, parce qu'au fond, c'est ça le fruit de l'expérience qui est la mienne. Je veux un commando de 10 ou 15 ministres maximum.
Dont les noms seront connus avant.
Dont en tout cas, un certain nombre de ceux qui porteront les réformes principales doivent savoir à l'avance qui les porteront.
Mais est-ce que les Français doivent le savoir ?
Moi, je pense que les Français doivent le savoir. Mais surtout, ce gouvernement, il doit être composé d'hommes et de femmes qui ont une autorité personnelle, qui ne sont pas simplement le fruit d'un casting. Quand on regarde les échecs de ces dernières années, on s'aperçoit qu'il y a un affaiblissement d'année en année de l'autorité des ministres. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes et des femmes, souvent, qui n'ont pas de passé personnel, qui n'ont pas réalisé de choses, qui n'ont pas d'autorité morale. Et je voudrais que dans ce gouvernement, il y ait des poids lourds politiques, mais il y ait aussi des hommes et des femmes qui représentent des réussites professionnelles.
Il faut aussi dire à l'avance qui sera Premier ministre.
Des gens qui viennent de l'extérieur.
Le Premier ministre, il faut dire à l'avance qui sera.
Je pense qu'il faut qu'il y ait une équipe de France.
Brièvement, François Fillon.
Qu'il y ait une équipe de France et qu'on sorte de l'idée de l'homme providentiel. Voilà, le président de la République, l'homme providentiel qui va régler tous les problèmes. C'est une des sources de nos maux aujourd'hui, cette façon d'envisager la gouvernance de notre pays.
Dernière question, vous aviez dit s'il y a une défaite, si c'est ma défaite, je prends ma retraite. Pour vous, c'est président ou rien ?
Non, je n'ai jamais dit que je prenais ma retraite.
Politique.
J'ai dit simplement que.
Mais pour vous, c'est président ou rien, François Fillon ?
Engager une transformation profonde de mon pays. Voilà.
Si vous n'y parvenez pas.
Eh bien, je vais y parvenir.
François Fillon était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Merci à vous d'avoir été avec nous. À retrouver en intégralité sur LCI 18h30, 19h30, dans le replay d'RTL 18h15. Merci Alexis Brezet, Benoît Galeret et Christophe Jacubizine. À la semaine prochaine. Au revoir.
Vous écoutez RTL.